mot électrique. Une voix éraillée, la silhouette légère, le regard sombre, attentif, cheveux noirs, air malicieux, son nom, Fersen, prénom, Thomas, profession, raconteur d'histoire, diseur de bonne aventure. Et puis il chante, Thomas, alors il est aussi chanteur. Il chante l'amour, doux, parfois, dur. Heureusement, il y a les fleurs, les oiseaux, les Zaza, qui puent, mais qu'il aime quand même. Tout cela, c'était avant et c'était si bien. Mais voilà, les mots se sont envolés, les notes de musique s'égrènent toujours. Maintenant, il y a une page blanche. Pour un certain temps, les mots vont se poser. Sous sa plume, Fersen construit. Il emprunte à sa mémoire. Le processus créatif est en marche. Espiègle, mélancolique. Il cultive la dérision et nous invite à la fête. Poète des temps modernes, ainsi peut-on le définir, le voici penché sur son roman. Le premier roman, comme le premier enfant, réserve plein de surprises. La surprise, c'est Dieu. Dieu est bien content. Après le silence de ces dernières années, Fersen l'a convié au voyage. Surprenant et doué, l'auteur glisse la poésie dans ses textes et nous invite à la partager. Laissons-nous charmer, de l'écrit à l'oral, il n'y a qu'un pas. Thomas Fersen, bonjour.
Bonjour.
Quand vous étiez petit, enfant, aviez-vous des rêves qui vous ont marqué jusqu'à peut-être aujourd'hui ?
J'ai des rêves très anciens, effectivement, notamment un qui m'a longtemps intrigué, parce que je ne savais pas l'interpréter. Je voyais une étoile fondre sur moi dans la nuit et ça me terrorisait. Je me réveillais vraiment effrayé. Mais des années plus tard, j'ai eu l'idée que peut-être cette lumière qui fondait vers moi, en réalité, c'est moi qui allais vers elle. J'avais appliqué un principe d'inversion qui est si commun. Et c'est moi qui glissais vers la lumière et je me suis toujours demandé depuis si c'était pas plutôt la lumière de la salle d'accouchement que j'ai vue. Et qu'en fait, j'étais terrorisé par l'extérieur. J'étais terrorisé, j'avais pas envie de sortir comme je pense la plupart des nourrissons. Et ce rêve après est parti. Il m'a quand même habité jusque, je dirais, ma petite enfance, jusque vers peut-être même 8-10 ans, quoi. Une terreur terrible. J'ai longtemps cru que c'était la mort, et en fait, je pense que c'était la vie qui me faisait peur. La vie à l'extérieur de ce palais rose dans lequel j'étais si bien, sans doute.
Quand vous étiez enfant, vous aviez des rêves, mais peut-être aviez-vous aussi des envies. Quelle envie aviez-vous, par exemple, quel métier auriez-vous aimé faire ?
J'étais un peu quand même fantaisiste dans mes réponses parce que je ne savais pas très bien ce que je voulais faire. Ce que j'aimais déjà, j'avais le goût de me laisser aller à mon imagination. Donc je fermais la porte de ma chambre et je réinventais le monde. J'ai inventé le théâtre, je n'étais jamais allé au théâtre. J'ai inventé un frère, je n'avais pas de frère. Ce n'était pas un manque d'ailleurs, enfin, c'était pour jouer. Et j'ai inventé un amour avec une fille, mais enfin, je ne lui ai jamais adressé la parole. J'ai inventé un chien. Et j'ai inventé une religion, j'ai inventé les histoires des voisins, dont je tirais quelques éléments en les observant par la fenêtre. Et je jouais comme ça à imaginer, rêver, construire. Et j'étais déjà dans le goût de la narration, finalement. Mais c'est à moi que je racontais des histoires. Bon, j'étais mon seul spectateur au départ.
Vous aviez des parents qui étaient là, qui vous voyaient imaginer, peut-être être en retrait. Quel rôle ont-ils joué ?
Ils ne savaient pas ce que je faisais derrière la porte. Donc, non, ils ne savaient pas que je me livrais à ce genre de jeu. Moi, j'étais censé faire mes devoirs, souvent. Mais voilà, je ne pouvais pas m'empêcher de... Aujourd'hui, je pense qu'on dirait que j'avais un trouble de l'attention. Voilà. Mais à l'époque, ça n'existait pas, on nommait pas ce genre de choses. Et donc, j'ai développé des stratégies dans mon existence pour utiliser cette petite différence, finalement, assez bénigne, puisque j'avais juste un besoin de rêver. Pour en faire mon métier, quoi. J'avais le désir d'écrire très très jeune, bien avant celui de chanter. Celui de chanter est arrivé vers 14 ans, et encore, parce qu'on m'a plus ou moins poussé. Je jouais de la musique, mais je n'étais pas chanteur, j'étais guitariste, et un jour on m'a bombardé chanteur. Je me suis laissé faire. Voilà, mais mon rêve était d'écrire. C'était d'écrire, c'était d'exister à travers la littérature, oui.
La musique avant les mots ? La guitare avant la voix, pour finir sur une scène finalement, pour devenir chanteur. Est-ce qu'on pourrait dire que vous êtes autodidacte par rapport à tout cela ?
Totalement autodidacte, puisque je n'ai pas fait d'études de lettres déjà. Donc je suis, comme j'ai pu le lire une fois, un imprégné, puisque je suis allé chercher le livre par plaisir, par un goût souvent. comme ça, comme un chien sur un chemin buissonnier, quoi. J'allais là où mon plaisir m'appelait, comme le petit chaperon rouge, si vous voulez, qui prend un chemin et qui perd son temps à laisser aller son imagination au gré de son plaisir, de son désir, voilà. J'ai lu, j'ai construit ma bibliothèque comme ça. D'abord, le premier ressort dans la littérature que je suis allé chercher, enfin la première chose que je suis allé chercher, c'est un compagnon. Un compagnon, c'est l'auteur. Donc avec qui j'aime passer un moment. Parfois, quand j'aime vraiment ce compagnon-là, ben je lis tout ce qu'il a pu produire. C'est quelqu'un de familier, dont j'aime la voix intérieure, parce que j'ai découvert aussi que mon approche du langage, ça faisait par l'oralité, même si j'étais lecteur. C'est peut-être paradoxal, mais en lisant, j'entendais toujours une voix. D'ailleurs, c'est une question qui s'est présentée à moi quand j'ai écrit mon premier roman, puisque j'avais toujours été en tant que chanteur dans l'oralité, et que je suis passé à l'écrit. Et ça, c'est évidemment cette grande complexité à laquelle j'ai été confronté et que j'ai essayé de résoudre à ma façon. D'autant que j'ai écrit ce livre en vers de chansons, en établissant moi-même les règles de ma poésie, qui ne sont pas finalement les règles de la poésie classique. Enfin, j'en ai seulement gardé une petite partie. Et comme l'oralité, on a gardé une petite partie. Voilà, j'ai écrit ce livre en entendant une voix. Et je pense que quand on le lit, on entend ma voix. C'est ce qu'on me dit souvent, en tout cas.
Au printemps de ma vie, je quitte mon père. La ville attend les petits rats des champs. Jolie fermière me dit où vas-tu, monte derrière avec les laitues, les pieds dans le ciel, chez les hirondelles, nous filons doux et la route est à nous. Petit, la vie est belle à l'école buissonnière, nous irons danser au bal des oiseaux près de la rivière. Les prés sont verts, quel âge as-tu toi? De pain. La campagne se prête à tout, mais la ville pas du tout. Nous irons danser au bal des oiseaux près de la rivière.
Fersen, au micro de Chantal Rouchon sur RVR.
Alors, mémoire, création, inspiration, l'investissement est total. Comment vous organisez tout ça?
Je travaille dans une forme de désordre parce que je laisse parler mon imaginaire qui, surtout le matin au réveil, dans la continuité de la nuit, me fournit des images qui me surprennent moi-même, des pensées. Et donc, à partir de là, après, je fais un travail d'organisation qui est beaucoup plus terre à terre de ces idées qui m'ont traversé.
Le titre du roman est étonnant. Comment vous est-il venu à l'idée? Un dieu sur terre, ce n'est plus un dieu.
C'est-à-dire que j'aime les titres énigmatiques. C'est un titre où on s'interroge en disant, dites, qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce que c'est? Par exemple, je donnerai l'exemple d'un livre de Marcel Aimé qui s'appelle Le bœuf clandestin. Quand vous voyez un titre comme ça, un bœuf clandestin, c'est quand même étrange, on ne sait pas ce que c'est. On apprend que Marcel Aimé a raconté l'histoire d'un type qui se fait passer pour végétarien dans les années 50 et qui mange du bœuf en cachette. Ce genre de fantaisie me plaît beaucoup. Un jour, j'entends quelqu'un qui dit « Ah, mon frère à la maison, mon frère, c'était Dieu sur terre ». Alors ça contient tellement de choses que moi, évidemment, tout de suite, c'est pour moi ce genre de phrase. J'ai commencé à raconter l'histoire d'un frère, donc, qui serait Dieu sur terre dans la famille, c'est-à-dire le préféré, etc. Et c'est pas du tout autobiographique, puisque je n'ai pas eu de frère, et que j'ai pas du tout souffert de ce genre de rapport avec mes sœurs. Peut-être que mes sœurs avec moi, oui, mais en tout cas, c'est complètement une œuvre d'imagination, puisque je n'ai pas eu de frère et je n'en ai pas manqué. Si vous voulez, c'est un livre, l'auteur est donc ce petit garçon qui décide un jour d'écrire un livre. Il décrit sa vision du monde, c'est pas du tout la réalité, donc il augmente, il dilate. Il cherche pas du tout à faire un rapport exact de ce qui se passe, il cherche juste à faire un rapport exact de son imagination, ce qui est complètement différent. C'est une œuvre d'imagination, voilà. C'est ça qui l'intéresse. Et d'ailleurs, je pense que tout roman est une œuvre d'imagination, il faut pas chercher la vérité dans un roman, il faut y chercher le style, le plaisir de la lecture, les idées... Surtout cet affranchissement de l'espace et du temps qui est si délicieux, qui est une victoire sur la mort, sur le temps qui passe. Voilà quels sont pour moi les ressorts de la littérature, le style, mais certainement pas la recherche d'une vérité quelconque, puisque des vérités, c'est pas le lieu, quoi.
Le fond et la forme, les deux éléments peut-être essentiels. Là, la forme, vous lui donnez quelque part des vers. Et sur le fond, finalement, c'est un garçon, son père, sa famille.
Son matériau, c'est une époque, c'est un des endroits, des lieux, des personnages qu'il observe, sa propre famille. Il utilise son environnement pour se livrer à son activité préférée d'écrire et d'imaginer. Voilà, donc évidemment, il prend ce qu'il a autour de lui. Donc c'est pour ça que c'est pas un roman autobiographique, puisque on s'en fiche. Il n'y a pas de règle. C'est pas là que se situe le livre. Ce petit garçon, au départ, puisqu'on le voit, ce livre s'étend de l'école primaire jusqu'à sa sortie du service militaire. C'est donc imaginer un frère, et ce frère, c'est un peu celui que chacun se demande d'être. Donc on essaye tous d'avoir, on a tous un modèle intérieur. Non pas qu'on va chercher dans la vie, mais qu'on s'est construit soi-même. C'est-à-dire, ah, tu devrais faire mieux, tu devrais essayer ça, pourquoi tu penses des choses pareilles. Donc on construit comme ça un modèle, une sorte de surhomme, déjà, qui bien souvent nous renvoie à notre condition et nous écrase un peu. Et petit à petit, le personnage va s'affranchir de cette création de son esprit, parce que il se frotte à l'existence, à la sexualité, d'abord à la puberté, la sexualité, enfin à la difficulté de vivre, de trouver sa place socialement. Et petit à petit, on voit que le frère disparaît, c'est plus une préoccupation pour lui. C'est pas un problème, voilà. Et quant à cette religion, il a besoin de croire. Il a besoin de croire en quelque chose. Il a le sens du sacré, mais il n'a pas d'éducation religieuse, donc il s'est fabriqué sa propre religion en toute liberté, et il tient cette liberté. S'il y avait un leitmotiv dans mon roman, et même dans mes chansons depuis que je fais des chansons, c'est ce désir absolu de liberté. C'est-à-dire qu'il ne s'impose aucune contrainte qui pourrait l'empêcher. C'est pour ça qu'il ne dit pas la vérité dans son livre. Il s'impose des contraintes de style qu'il a choisies lui-même, qui sont pourtant rigoureuses, mais voilà. Et même en religion, il se construit sa propre religion, il ne demande de compte à personne, il ne rend de compte à personne, et il n'essaye pas de faire du prosélytisme non plus. Il croit, mais tout seul, il ne veut pas croire avec les autres.
On écoute Libertad. Titre sorti en 2013, et on se retrouve juste après.
Libertad est en cabane de moi, baron. Je m'en vais là-bas. Je cavale à la Havane et je m'évade. Je vais l'embrasser. Te quiero, mi libertad. Te quiero. Où te caches-tu, Libertad, dans une barbe ou dans un havane? Peut-être dans un champ de canne, dans un café, dans une soutane. Te quiero, mi Libertad. Te
de toi, fou de moi par an. Fou de toi, fou de moi seulement. Égoïstement. Tu as raison de moi par an. Je joue le jeu, je me prends dans les grands sentiments. Et très gentiment. J'ai besoin de liberté, dis-moi par an, dis-moi seulement. Mais Castro n'est pas content si je la prends, dis-moi seulement. Qu'elle me quiera, mi libertad. Qu'elle me quiera, mi libertad. Et puis je fous le camp. Et tu me mens, tu me traînes, tu m'entraînes en riant. Je me réveille tout en blanc, me mariant sous le soleil blanc. Pour la vie, sous le soleil blanc. Pour la vie sûrement. Je voudrais dire à fidèle, infidèle. Tu l'es sûrement, mais ça n'en vaut pas la peine. Il est seul depuis trop longtemps. Te quiero, mi libertad. Te quiero, mi libertad. Et je suis fou de moi, de quoi finalement si tu te joues de moi. Sous le soleil blanc, je bois du rhum, je bois, mais je marche droit. Ma voix se casse, je me casse. Mais Castro est là avec mon visa. Te quiero, mi libertad. Te quiero, mi libertad.
C'était Libertad de Thomas Fersen. Il est avec nous et il nous parle de son rêve d'écrire.
Un rêve, oui, parce que je rêvais d'écrire un roman. Ça fait longtemps, évidemment, que cette idée me tourmentait, parce que je ne savais pas comment faire. C'est surtout la question du style qui m'embêtait. Voilà, parce que je me disais, je ne voyais pas mon style. J'ai un style d'auteur de chansons qui, lui, par contre, était bien visible. Défini, c'est à tel point d'ailleurs que c'est comme ça que j'ai résolu la question du style. C'est que je me suis dit, tu vas écrire un livre. Si tu veux écrire un livre, écris-le dans ce style que tu t'es forgé depuis 30 ans en écrivant des chansons. Donc j'ai écrit en vers ce livre. Et je dis, voilà ton identité, elle existe vraiment, elle a une certaine valeur. C'est toi qui a choisi cette forme il y a longtemps. Et maintenant, ta pensée est structurée autour de ces octosyllabes pour la plupart. Des vers que je fais, et donc c'est ce qu'il faut faire, voilà, ne cherche pas autre chose. Mais il m'a fallu 30 ans pour penser à ça.
Vous a fallu peut-être tous ces petits animaux qui vous ont inspiré quand vous étiez plus jeune, qui étaient eux la forme ou le fond?
Comme tout narrateur, je manipule des imageries. Hein. Alors c'est un jeu d'ombre de théâtre. Alors parmi toutes les imageries, il y a bien sûr l'imagerie animale qui est très présente d'abord dans les expressions populaires, notamment celles qui sont utilisées en ville, parce qu'elles sont forcément, elles apportent un petit vent de fraîcheur, de liberté, d'ouverture sur un monde contraire à la ville, où le monde est clos, hein, entre les murs. J'ai plein d'imageries que je manipule, les plus classiques, la mort, l'amour, les prénoms, les objets, les accessoires de l'homme de la ville, le parapluie, le chapeau, les souliers, les redingotes, les cravates, etc. Voilà, j'ai des imageries que j'aime manipuler, pour raconter des histoires, parce que c'est vrai que j'ai une narration qui est très imagée, concise, et j'ai besoin de ce genre d'artifice pour raconter mes histoires. Oui. Le théâtre est tout prêt, puisque ce livre a donné une pièce de théâtre qui s'appelle « Mon frère, c'est Dieu sur terre ». Donc ce sont les textes extraits du livre qui concernent le frère. Ces extraits ont été choisis par le metteur en scène Benjamin Lazare et Jessica Dalle, donc qui ont mis en scène cette pièce dont j'incarne ce personnage qui joue dans sa chambre. Voilà, et j'invite les spectateurs à entrer dans ma chambre avec moi. Et c'est du théâtre musical, parce que ces textes ont parfois accompagnés de musiques qui sont extraites de mon répertoire et qui avaient été arrangées par Joseph Racaille pour un quatuor à cordes. Là, c'est une réduction pour un violon, un accordéon qui joue alto, violon 2 et violoncelle, et une guitare qui fait l'accompagnement. Voilà, donc ça c'est une pièce qui part en tournée à la rentrée au mois d'octobre et qui va s'étendre jusqu'à Noël 24.
Votre public dans tout cela ?
Le public, je pense que c'est un public qui aime le langage, qui aime la narration, la mienne, mais les autres aussi, qui aiment entendre des histoires, qui aiment l'esprit, une certaine façon de raconter, qui est hors du temps. Je pense que je ne me suis jamais soucié du temps, j'ai toujours essayé de m'en affranchir. Quelles que soient les manifestations, les choses dans lesquelles ils se manifestent, comme la mode par exemple. Donc voilà, je pense que le public, c'est un public libre. Le public est libre de venir ou de ne pas venir, qui vient par plaisir, comme moi, quand j'entre dans une librairie, par exemple, et que j'ai l'intention d'acheter un livre.
Nous retrouvons Thomas Fersen ce vendredi 20 juillet 2024, après le rendez-vous raté de l'été passé, laissant le château de La Roche dans l'attente de son retour.